Parmi les déclarations du Christ qui ont le plus stupéfié ses contemporains, se trouve celle-ci telle qu'elle est rapportée dans l'évangile de Matthieu. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Selon une conception juive, la venue du Messie devait inaugurer une ère de paix totale. Or, ce que Jésus vient de leur dire semble contredire violemment cette pensée. En réalité, Jésus use ici d'un paradoxe qui doit heurter la pensée et s'incruster dans la mémoire. Effectivement, la venue du Christ va provoquer diverses réactions, diverses attitudes. Son but, c'est de sauver ceux qui sont perdus. Sa mission réelle est d'apporter la paix de Dieu. Hélas, par sa présence même, il va susciter des haines, des résistances, des jalousies, des divisions. Il ne sera pas l'auteur de tout cela, il n'en sera que l'occasion. Heureusement, il va aussi apprendre à des milliers d'hommes à s'aimer et à vivre. Ainsi, depuis le jour où on le vit se manifester pour la première fois en public, il n'a cessé de provoquer des attitudes. Certains sont violemment contre lui, certains sont passionnément pour lui. Mais il y a aussi la foule des indécis qui ne savent pas de quel côté ils doivent s'engager. Aujourd'hui, je vous propose d'examiner ces diverses attitudes, telles qu'elles se manifestaient envers le Christ aux origines du christianisme. Vous constaterez qu'effectivement, les hommes n'ont guère changé depuis 2000 ans. Peut-être aussi parviendrez-vous à dégager, à préciser dans votre cœur votre propre attitude à l'égard du Christ. Je ne vous cacherai pas que c'est le but que je recherche en guidant vos pensées dans cet examen. Je crois que l'attitude la plus frappante dans l'auditoire du Christ, c'est celle orgueilleuse, suffisante et hautaine des pharisiens. Qui étaient les pharisiens? Ils représentaient la conscience religieuse des Juifs. Ils formaient une secte très rigoureuse. Ils étaient pleins de bonne volonté sans doute, mais ils avaient fait de la religion une chose purement extérieure. Le fait de s'être conformés aux multiples prescriptions rituelles de leur religion leur donnait la certitude d'être en règle avec Dieu. En fait, ils n'avaient qu'à se réclamer de leur mérite. Lorsque parut Jean-Baptiste prêchant la repentance, ils se présentèrent à lui comme des gens qui n'avaient pas besoin de repentance. Nous voyons que cette attitude est toujours très à l'honneur. Parlez aux hommes aujourd'hui de culpabilité, de repentance et de salut. Mais ce sont des gens qui n'ont rien à se reprocher et qui envisagent le salut comme un bien qui leur est dû. Ils étalent leur bonté et leur justice avec autant de conviction qu'un ouvrier qui revendique ses droits à la pension. Il faut relire souvent la parabole du pharisien et du publicain. Elle demeure d'une extraordinaire actualité. Dans le chapitre 18 de l'Évangile selon Luc, Jésus dit cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Une telle attitude dédaigne l'Évangile, car l'Évangile ne s'adresse qu'aux pécheurs. Le chapitre 12 de l'Évangile de Jean nous met en présence d'une attitude navrante. Il est écrit que même parmi les chefs, donc parmi les notables du peuple, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, c'est-à-dire, ils ne se déclaraient pas pour lui, de peur d'être exclus de la synagogue. L'apôtre Jean ajoute qu'une telle attitude prouve qu'ils attachaient plus d'importance et mettaient plus de prix à l'opinion des hommes qu'à la gloire qui vient de Dieu. Il me souvient avoir étudié la parole de Dieu chaque semaine pendant plus d'un an, avec une famille dans un petit village du Pas-de-Calais. Je sentais qu'ils aimaient ma compagnie, mais plus que ma présence, je voulais leur faire aimer le livre qui pouvait changer leur vie. Un soir, alors que manifestement, les études que nous avions faites sollicitaient de leur part une prise de position, le père me dit au nom de sa famille, « Monsieur Andrzejewski, nous avons beaucoup d'affection pour vous. Nous savons que vous nous apportez la vérité. Nous savons aussi que nous devrions recevoir le baptême pour rendre obéissance à l'Évangile. Mais nous ne pouvons pas nous résoudre à prendre position. Que diraient nos voisins? Nous serions le point de mire du village entier. Je risque même de perdre mon emploi. » On ne saurait trop dénoncer la pusillanimité, la folie d'une telle attitude. Jésus avait déjà parlé de ceux qui auraient honte de lui et de ses paroles, et qui le renieraient ainsi devant les hommes. Chers amis, sentez-vous, vous aussi, parfois peser sur vous l'influence paralysante de l'opinion publique. La troisième attitude que nous examinerons est parente de la précédente. Elle se trouve dépeinte dans le chapitre 7 des Actes des Apôtres. Nous avons là le discours d'un chrétien nommé Étienne qui comparaît devant la Cour suprême des Juifs. Son crime, on l'accuse de déranger les confortables traditions du peuple en annonçant l'ordre nouveau instauré par le Christ. Dans sa défense, il rappelle d'abord toute l'histoire d'Israël, épopée glorieuse en vérité. Comme il n'y avait pas d'histoire plus douce à l'oreille d'un juif, on le laisse parler sans trop savoir où il veut en venir. Il insiste cependant sur l'inconstance et l'infidélité du peuple élu et termine son discours par ces mots cinglants « Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ils ont persécuté les prophètes qui annonçaient la venue du Messie et vous êtes bien dans la lignée de vos ancêtres puisque vous avez été meurtriers du Fils de Dieu. » À ces mots, il grince des dents contre lui. La vérité est trop désagréable à entendre. Et pour ne plus l'entendre, il se bouche les oreilles. La Bible nous dit « Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. » On rencontre hélas encore beaucoup de personnes qui ne veulent pas entendre parler des exigences de la foi. Elles ont peur d'être dérangées dans leur confort moral. Elles se persuadent qu'il suffit d'être sincères. En réalité, elles ne veulent entendre que ce qui leur plaît. Elles choisissent leur doctrine selon leur goût, leur tempérament et leur disposition. Parlez-leur de ce qu'elles doivent entendre, de ce qu'elles doivent savoir, de ce qu'elles doivent faire, et elles vous fuient. L'apôtre Paul avait déjà annoncé ces temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront des maîtres en quantité. Selon leurs propres désirs, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. L'apôtre Paul nous fournit d'ailleurs l'occasion de découvrir une autre attitude encore devant le message de la parole de Dieu, celle de certains intellectuels. C'est dans son discours devant les philosophes d'Athènes qu'il eut l'occasion, une fois de plus, de mesurer leur dédain et l'égarement de leur raison. Le discours de Paul est d'ailleurs un chef-d'œuvre de diplomatie et de composition. Sa tâche était difficile. Il s'agissait de convaincre les idolâtres et les intellectuels d'Athènes de l'existence du seul vrai Dieu et de leur faire connaître sa volonté envers les hommes. Ils le laissèrent parler poliment et sans doute avec curiosité de ce Dieu unique qui dédaigne les temples construits par les hommes. Mais au moment même où Paul prononça les mots « résurrection des morts », ils se sentirent insultés dans leur intelligence de philosophe et de raisonneurs. Les uns se moquèrent ouvertement du prédicateur, tandis que les autres, sans être aussi bruyants, éconduisirent le discoureur en lui promettant de l'écouter là-dessus une autre fois. Notre monde moderne, épris de science, de découverte, épris de l'homme, a de l'affinité avec ses Athéniens. La foi en Christ a reculé. Elle est devenue la propriété presque exclusive des petits. C'est tout juste si l'on croit encore en un vague être suprême. Parlez aujourd'hui de la divinité du Christ. Insistez sur ses miracles. Soulignez l'inspiration des Écritures. Prêchez sur le ciel et l'enfer. Et l'on vous saluera avec une froide courtoisie qui dissimule mal l'ironie. Tout cela est folie, pensera-t-on. Mais Paul nous a déjà livré son sentiment sur cette question. « Que nul ne s'abuse lui-même, conseille-t-il avec flamme. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Et pour cause, il suffit de voir l'état psychologique de notre monde pour constater la folie de la sagesse humaine. Heureusement, il y a des exceptions réconfortantes. La prédication de l'Évangile n'a pas rencontré que des résistances. Ainsi, juste avant de se rendre à Athènes, l'apôtre Paul se trouvait dans la ville de Bérée, en Macédoine. C'est là qu'il rencontra des gens qui le frappèrent par leur empressement à connaître et à comprendre la volonté de Dieu à leur égard. Un témoin, Luc, nous rapporte que ces Béréens examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Cette attitude est particulièrement louable, car elle dénote un souci de ne pas se laisser enseigner par des hommes, mais par la parole de Dieu elle-même. Comme les Juifs de cette époque avaient à leur disposition les écrits des prophètes, de même, nous avons aujourd'hui les écrits des apôtres, c'est-à-dire leurs témoignages. C'est par eux que Dieu parle aujourd'hui aux hommes et à l'Église du Christ. Quelle peut être la teneur de notre foi? Quelle peut être la valeur et l'avenir de notre christianisme si nous ne connaissons pas leurs écrits? Ne sommes-nous pas ainsi vulnérables à toute doctrine, pourvu qu'elle se réclame de Dieu? Déjà, aux origines du christianisme, au sein même de l'Église, certains éléments voulaient se laisser aller à la tentation de façonner de nouvelles doctrines en modifiant celles qu'ils avaient reçues des apôtres. L'apôtre Paul interviendra vigoureusement, en plusieurs occasions, contre ce genre d'improvisation sur le thème de la foi. Il dira par exemple, « Si vous ne retenez pas l'Évangile tel que je vous l'ai annoncé, votre foi est vaine. » Et pour insister sur l'origine divine de son message, il dira, « Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. » Nous n'avons pas l'impression d'exagérer en affirmant que si Paul devait revenir parmi nous aujourd'hui, il aurait souvent bien du mal à retrouver le simple Évangile qu'il avait annoncé dans l'enchevêtrement des doctrines, des rites et des articles de foi que les hommes ont créés. Il se souviendrait sans doute avec nostalgie de ces Béréens qui faisaient des Écritures leur guide et leur critère pour ne pas se laisser induire en erreur. C'est cette attitude-là que nous devons apprendre à cultiver. Le contact étroit avec la parole a toujours été une garantie de pureté et de vérité. Nous pourrions encore parler de l'attitude révoltante de l'indifférent, de ceux qui se contentent d'être à proximité du Christ au lieu de s'engager résolument en lui, en définitive, dans ce faisceau de réactions et d'attitudes devant le message de la croix, le Christ opère une radicale sélection. À ses yeux, les hommes se divisent en deux catégories, ceux qui sont pour lui et ceux qui sont contre lui. Il n'y a point de refuge dans la neutralité, car qui n'est pas pour lui est contre lui, et celui qui n'assemble pas avec lui accomplit un travail de division par sa neutralité même et son indifférence. Il nous a donné sa doctrine, ses promesses, ses commandements, en un mot, sa parole, et il déclare que nous serons jugés en fonction de notre attitude à l'égard de sa parole. C'est elle que les disciples allèrent porter à toute la création. Il leur avait dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, c'est-à-dire qu'il ne sera pas jugé coupable, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Toutes ces attitudes que nous avons examinées se résument en ceci. Certains ont accepté le message et l'invitation du Christ, d'autres l'ont refusé. Chers amis, dans quelle catégorie vous trouvez-vous? À ce point, vous me direz sans doute, bien sûr que j'accepte le message du Christ, mais comment le montrer? Pour répondre à cette question toute légitime, je donnerai trois exemples tirés des Écritures. L'exemple n'est-il pas la meilleure pédagogie? Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Voilà le témoignage de tous ceux qui vous ont précédés. Il ne vous reste plus qu'à les imiter. À moins de mourir en martyr, il n'existe pas d'expression plus éloquente de votre engagement total, de votre abandon et de votre adhésion au Christ.